One, two, three, ho!
Du coup, il n'y a pas que les copains hein, qui changent d'avis sur le vélo, il y a de plus en plus de gens. Hein. Tu sens quand même une évolution des mentalités.
Ah ouais, ouais, mais je pense que tout le monde autour de nous, j'ai clairement des copains qui étaient à 10 000 km du vélo, qui, en quelques mois, là, s'y sont mis, sont partis en vacances à vélo, ou acheter un vélo cargo pour mettre les gamins dedans, alors qu'ils n'étaient pas du tout vélo.
Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, enfin presque. Vous savez que depuis le début de l'année, on diffuse le dernier épisode de chaque mois avec nos collègues des Sockets en Titane. Et bien pour les deux derniers épisodes de la saison, on a fait mieux, on a fait un crossover. C'est-à-dire que je suis allé enregistrer là-bas, en Belgique, je suis allé voir nos copains et qu'est-ce qu'ils sont sympas. On a même été boire un coup après. Et du coup, pour les deux derniers épisodes de la saison 3 de Pause Vélo, je vous propose d'écouter un mélange de ce que donnent les meilleurs podcasteurs vélo de Suisse, de France, de Belgique. Générique.
Les Sockets en Titane.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Sockets en Titane. On a choisi de mettre l'accent sur un certain type de cycliste, les livreurs de repas, hein, des plateformes que vous connaissez. Les livreurs de repas à maintes reprises, on a parlé de tous ces gens qui vont au boulot à vélo, dont le nombre a augmenté avec la crise Covid, mais il en va de même pour tous ces livreurs de bouffe et dont on va enfin dignement parler, parce que même si on a fait quelques fois référence, eh bien le sujet méritait clairement qu'on en parle vraiment plus en détail. On va donc enfin pouvoir parler de cette problématique des emplois à la demande. Alors on a tout droit venu de France, Eric du podcast Pause Vélo qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Eric.
Salut tout le monde.
Et donc le podcast Pause Vélo, ils étaient là avant nous et on a hâte d'en savoir plus sur leur projet. On vous en a déjà parlé plusieurs fois de Pause Vélo pour plein de raisons, mais aussi parce que depuis peu vous nous rediffusez une fois par mois en version condensée.
Ouais, on reprend, puisque le créneau radio de Pause Vélo, c'est 30 minutes, donc on condense, je refais un montage.
Une fois par semaine, donc.
Ouais, et du coup, la dernière émission de chaque mois sur Pause Vélo, c'est les Sockets en Titane version courte. Alors, je t'avoue que j'enlève tout ce qui est trop belgo-bruxellois, parce que on est diffusé en Suisse et en France, et puis j'arrive à avoir 30 minutes super efficaces, quoi.
Et vous existez depuis combien de temps, Pause Vélo ?
On a fêté 100e épisode, le tout dernier épisode, c'était le 100e, et on existe depuis maintenant 3 saisons, et on va attaquer la 4e saison en septembre. Et on est fiers, mais c'est du boulot, hein. Truc de fou.
Oui, une fois par semaine, c'est beaucoup de boulot, quoi.
Ouais.
Et alors, vous êtes diffusé à la base sur le web, mais il y a plein de petites radios locales.
Ouais, c'est ça. En fait, on a la chaîne YouTube et puis SoundCloud et puis tous les autres sites de podcast. Et puis, on a une douzaine de radios, 3 en Suisse et puis une dizaine en France. Souvent des radios locales ou des web radios, des radios associatives. Et puis, elles attendent toutes les missions qu'on leur envoie le lundi soir et puis elles le diffusent quand elles veulent au cours de la semaine. Ça permet d'être diffusé un peu partout en francophonie, quoi. Mm.
Mais vous l'enregistrez où, cette émission, physiquement ?
Alors, physiquement, on a notre port d'attache, c'est une radio à Lausanne, mais on a aussi une autre radio en Normandie, puisque je navigue entre la Normandie et la Suisse. Et puis, on a aussi un super enregistreur, un Zoom, là, on peut brancher 4 micros. Et du coup, on peut aller sur des festivals à droite à gauche, on est hyper mobile, ça permet de rencontrer différents acteurs, de se rendre sur des festivals, d'avoir des émissions en public, ça, c'est vachement sympa, quoi.
Et vous diffusez jamais en live sur YouTube, vous faites pas ça ?
Alors de temps en temps, quand on peut, quand on enregistre dans ma cave, on met la première prise, on enregistre ça en Facebook Live. Mais c'est vrai que vous, c'est un truc que vous avez qui est super et qui attire les auditeurs. C'est déjà d'être tout le temps en direct, toujours au même moment, et puis d'être sur YouTube. Du coup, là, ça fédère la communauté. Et ça nous manque vachement, ça.
Mmh. Posez-le, ça parle quand même plus que les Sockets en Titane. Parce que les Sockets en Titane, avant de savoir qu'on parle de vélo, il faut le savoir, quoi, franchement. Alors que Pause Vélo, direct, tu vois, vous avez fait des études de marketing, pas comme moi, quoi.
C'est non, pas comme moi. C'est avec Arnaud, mon co-animateur, on était sur le balcon, on se disait, faut qu'on fasse un truc, il n'y a pas de lobby.
Parce que toi, t'es cycliste, évidemment.
Ouais, cycliste du quotidien. Mm-hmm.
Toute l'équipe, puis,
tous. On recrute pas. Si, il y en a un qui déteste les cyclistes, qui fait la petite chronique humoristique, et lui se déplace en scooter et tout ça. C'est l'ennemi, en fait. Ah. Mais comme c'est un gars qui fait du stand-up, c'est cool qu'il fasse des chroniques comme ça, méchantes sur nous. Ça nous remet à notre place aussi.
Et donc, ce podcast, comme tu dis, c'est un peu un lobby hein, pour du vélo, quoi. Toi, quand on s'est parlé, tu m'as clairement dit, moi, plus mon émission elle est diffusée, enfin, plus on parle de vélo, que ce soit sur Internet ou ailleurs, c'est ce qui compte, quoi.
Bah ouais, parce que il y a pour la voiture, il y a tout ce qu'il faut. Déjà, il y a des pubs toute la journée. Il y a Top Gear Turbo. Enfin, il y a, je sais pas, toutes les grandes chaînes ont toutes leurs émissions voiture. Et le vélo, il est nulle part. Donc, l'idée au départ, c'était de se dire, on a d'abord cherché s'il existait déjà un podcast sur le vélo. On n'a pas trouvé, mais on s'est aperçu qu'il en existait un déjà. C'est Feu Cyclocast, parce que je crois qu'ils ont arrêté. Et puis, du coup, on s'est dit, allez, on monte notre truc. Au début, on était parti pour un quart d'heure par semaine. Puis en fait, on s'est aperçu qu'en un quart d'heure, on disait rien. Mais en même temps, 30 minutes, c'est du boulot, hein, parce qu'il y a 7-8 chroniques à chaque fois, c'est assez intense. Mmh. Du coup, on était hyper contents de pouvoir partager le créneau avec vous et d'avoir une émission en moins par mois, ça c'est bonheur en barre.
Il y a Lily sur Twitter qui dit « Ça fait bizarre de voir et d'écouter les influenceurs de la vélosphère dans une même émission, un peu comme aller à un concert et écouter ses stars préférées. » Et elle nous tag tous.
Ouais, on est un lobby tous ensemble.
À fond, c'est cool. t'as quel genre de vélo, très rapidement, comme ça on situe un peu le personnage
hein. Ouais, j'ai un VTT de base, un vieux, il a plus de 20 ans, mais c'est très bien, il est léger. Pour moi, ce qu'il faut un vélo, c'est qu'on puisse faire le moins d'efforts possible pour se déplacer avec et qu'on puisse facilement le réparer. Et puis j'ai aussi le vieux vélo de mon père, le vélo il doit avoir... je crois qu'il était d'occasion, il a 3/4 siècle. Mais c'est bien d'avoir 2 vélos, parce que quand tu veux emmener un copain, il n'a pas d'excuse de « Non, ben non, comment je fais ?»« Si, ben viens, j'ai mon vélo. » Et puis en plus, si tu as une roue qui est crevée, tu n'es pas obligé de paniquer, tu prends l'autre vélo à côté et puis tout va bien.
Exactement.
Du coup, il n'y a pas que les copains qui changent d'avis sur le vélo, il y a de plus en plus de gens. Tu sens quand même une évolution des mentalités.
Ah ouais, ben, je pense que tout le monde autour de nous, j'ai clairement des copains qui étaient à 10 000 km du vélo, qui, en quelques mois, là, s'y sont mis, sont partis en vacances à vélo, ou acheter un vélo cargo pour mettre les gamins dedans, alors qu'ils n'étaient pas du tout vélo. Là, on est en train de vivre quelque chose. Quand on a commencé Pause Vélo, ou vous, les sockets en titane, c'était avant Covid. Moi, j'aurais jamais imaginé ça, quoi.
C'est clair. Pour vous, mais... C'est fou ce qui se passe.
On est en train de gagner. Ça c'est fait plaisir d'avoir raison avant les autres.
Ouais. On est en train de gagner parce que des fois, comme on n'arrête pas de le dire dans les sockets, on n'est pas toujours cycliste. Des fois, on est piéton. On peut même être usager des transports en commun, voire même automobiliste.
Ah, moi, le premier. Hein,
mais en attendant, il y a quand même une place du vélo à revendiquer, clairement. Mmh. Et elle s'est faite avec le Covid.
Mais justement, je crois que quelqu'un qui fait du vélo quotidiennement, qui fait vraiment tous ses déplacements en vélo, peut être piéton. Peut être assez facilement aussi automobiliste, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient usagers de transport en commun. Ouais. Parce que moi, en tout cas, c'est une expérience vraiment personnelle, c'est que moi, justement, en arrivant à Bruxelles, j'étais très transport en commun. Je me disais, le tram, le métro, c'est vraiment pratique. Et puis, en fait, maintenant, depuis que je roule à vélo, je prends plus jamais de transport. Quand je prends un transport, je me dis, putain, j'aurais dû prendre mon vélo, quoi. Parce que je me rends compte à quel point... En fait, le vélo, c'est plus simple, quoi. Et donc, je pense, en tout cas, mon fiancé, c'est pas mon fiancé, mon vélo, mon vrai fiancé.
Oui, parce que son vélo s'appelle fiancé. Ouais,
ouais. Mais mon vélo, il s'appelle fiancé.
Oui.
Et là, c'est mon fiancé.
Ok,
c'est,
ok.
Voilà. Mon vélo, c'est fiancé avec un grand F. Et donc, mon fiancé, lui, c'est plutôt quelqu'un qui, à la base, est automobiliste. Et par exemple, lui n'est pas forcément vélo ou transport, mais en fait, c'est des utilisations qui s'imposent à lui. Parce qu'on se rend compte que la voiture, en tout cas à Bruxelles, c'est vraiment pas pratique, quoi.
Mais c'est le plus inefficace.
Ouais, c'est vraiment le plus inefficace. En tout cas, pour certains trajets, c'est vraiment.
Dans les villes, les villes ne sont pas adaptées. La densité de population est bien trop importante.
Exactement.
Il faut faire un choix entre soit la population, soit les voitures.
Ouais. Et du coup, je dis ça pourquoi ? Parce que. Les gens se sont mis au vélo, mais pas forcément parce qu'ils aiment rouler à vélo et qu'ils aiment le vélo. En tout cas, je pense les cyclistes citadins, mais parce que c'est la solution qui s'impose de fait. Et donc, cette solution s'impose aux gens, ils commencent à apprécier le vélo.
Après, effectivement, on devient plus sensible à l'écologie à force d'être dehors sur un vélo. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, voilà, ça a été un cheminement tout à fait naturel parce que je prenais le vélo, parce que j'en ai eu ras-le-bol de la voiture aussi, parce que je ne trouvais pas de place pour me garer, parce que j'en avais marre des embouteillages. Et voilà. Ça. Mais la première raison, si on interroge tous les cyclistes quotidiens, ça va être l'aspect pratique, quoi. quoi.
Mm-hmm. Il y a une petite chronique, hein, Eric, que tu m'as rapportée.
C'est une chronique qui va faire son apparition à la rentrée sur Pause Vélo et qu'on a en exclusivité. C'est une chronique sur l'actu vélo. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la cyclosphère?
Je m'appelle Léry et je suis le cofondateur de Vélook.fr, le blog des vélos d'occasion, mais également de la revue de presse Le Concentré Vélo qui compile chaque semaine le top 10 des infos vélo. Pour cette première chronique, j'ai voulu vous emmener en voyage. On a tous bien besoin de ça après des mois de confinement. Partons tout de suite direction les États-Unis. Le magazine en ligne Vice a réalisé une très belle vidéo de deux entrepreneurs new-yorkais à fond dans le vélo. Ils nous expliquent comment ils ont pu créer ou accélérer leur business vélo grâce à l'explosion de la demande en raison de la crise. Poursuivons aux États-Unis, mais en mode promenons-nous dans les bois. Qui ne rêverait pas de pédaler sur une piste cyclable au nom si poétique que les joyaux de la couronne? Ce sont 25 km de chemin de fer abandonné, de tunnels et de vues panoramiques sur les montagnes dans le nord-ouest américain. La vidéo de l'article du magazine en ligne Unofficial Network fait rêver. Je vous recommande vraiment de la visionner. Pour terminer avec le pays de l'oncle Sam, je voulais vraiment vous parler d'un des derniers épisodes du podcast Bababam, consacré à l'histoire méconnue du premier cycliste noir champion du monde. 15 minutes pour découvrir l'histoire incroyable de Major Taylor, cycliste américain de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Je vous laisse imaginer les difficultés d'un homme noir à cette époque, qui plus est champion du monde dans sa discipline, le cyclisme. Allez, revenons en Europe et plus particulièrement au Danemark. Le magazine Géo a publié un article assez inédit. Un journaliste s'est amusé à comparer le bonheur cyclable des Danois par rapport à celui des Français. Je ne vais pas vous révéler la conclusion de cet article, mais juste vous partager une info assez rigolote. Les amendes contre les cyclistes sont plus fortes à Copenhague qu'à Paris. Espérons que ça ne donne pas de mauvaises idées à notre ministre de l'Intérieur. Enfin, je vous recommande le reportage de la rédaction de France Culture consacré au Portugal, premier producteur européen de vélos. On découvre une industrie qui a doublé son activité alors même que l'usage du vélo par les Portugais reste encore très limité. C'est assez paradoxal. J'espère que cette première chronique vous a plu. Si vous ne voulez pas passer à côté du meilleur de l'actu des sept derniers jours, abonnez-vous à ma revue de presse. Vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche préféré le Concentré d'Info Vélo et le premier lien sera le bon. À bientôt.
C'est à toi, Eric. Tu nous as écrit une belle petite chronique.
Tout à l'heure, je disais qu'on aime bien avoir raison avant les autres. On aime encore plus avoir raison avant les autres. Et en plus, se le faire approuver par quelqu'un de sérieux, une autorité compétente. Les taxes auto ne sont pas suffisantes pour couvrir le coût que les voitures représentent pour la société.
Eh ouais.
Bien sûr, mais nous, on le savait depuis longtemps. Et là, c'est le site capital.fr qui ne sont pas des écolos bobos ni des cycloterroristes. Hein. C'est plutôt l'autre extrême. C'est eux qui le disent. Et c'est une étude de la Direction Générale du Trésor qui est rattachée au ministère de l'Économie en France. Donc, on peut se dire que c'est quand même sérieux et que c'est pas des gens qui se moquent de nous, qui sont pas non plus pro-vélo. Et eux, ils disent donc que les taxes auto ne sont pas suffisantes pour combler tout ce que coûte l'automobile à la société. Alors, quelles sont les taxes? Qu'est-ce qui fait que la voiture rapporte de l'argent à l'État? Je vous pose la question à tous.
Qu'elle rapporte? Oh là là, mon Dieu, l'emploi peut-être?
Bah, y a d'abord les taxes sur l'essence. Quand on paye l'essence.
Taxes de circulation.
Voilà, quand on roule sur une autoroute ou sur un pont. Tout ça, c'est ce qui rentre dans les caisses. Et puis, il y a aussi les taxes sur les voitures quand on les achète.
La TVA, ouais.
Voilà. Et alors, là, le calcul de la Direction Générale du Trésor sur l'argent qui rentre, il part aussi sur l'argent qui sort. Alors, l'argent qui sort, c'est évidemment construire les routes. Ça coûte vachement cher. Vous avez d'autres idées de quelles sont les externalités de l'automobile?
D'entretenir aussi, parce que...
Voilà.
Et les accidents, et le coût de ouais. soigner les accidentés.
Faire venir un hélicoptère.
J'imagine que la pollution de l'air et les 9000 morts en Belgique chaque année ne sont pas pris en compte dans les calculs.
Et là, c'est pris en compte, là, avec également la pollution sonore, etc. Et on s'aperçoit que ce que la voiture rapporte, c'est seulement un tiers de ce qu'elle coûte. Oh, seulement un tiers. C'est énorme. On parle aussi, évidemment, d'effet de serre, etc. En gros, en moyenne, ça coûte 16,5 centimes du kilomètre une voiture et ça ne rapporte que 7 centimes.
Incroyable.
Du coup, ça veut dire que ça coûte cher et l'État en France prépare éventuellement une hausse des taxes. Alors évidemment, il y a des gens qui sont pas contents avec ça. La Ligue de défense des conducteurs, via sa porte-parole, Alexandra Legendre, alors d'abord, elle discrédite l'étude. Elle dit « Cela montre bien qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres !» Donc c'est pas la peine que cette petite dame vienne nous sortir des chiffres sur le coût de l'automobile, etc. Et ensuite, on menace. Elle dit « À croire qu'ils veulent revoir les gilets jaunes !» Voilà. Alors, moi je suis content d'être un cycliste et de dire que moi je ne coûte pas cher à l'État et que quand on entend des fois des arguments qui disent « Moi je fais de la bagnole, moi je coûte, moi je paye des impôts alors je voudrais pouvoir rouler. » Eh ben non mon gars, tu coûtes à l'État et moi qui suis cycliste, je paye pour que tu puisses rouler et il est temps de rétablir cette injustice. Et d'ailleurs, le véhicule qui coûte le plus cher finalement, parce que l'étude recense aussi selon les diesels, selon les camions, etc., le véhicule qui coûte le plus cher, étonnamment, eh ben, c'est le véhicule électrique.
Bah oui.
Ceci étant dit, merci Eric. On a en studio autour de la table Martin et JB. Salut, bienvenue.
Salut.
Il nous reste un quart d'heure pour parler d'une problématique hyper importante pour moi et pour toute personne qui ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe dans sa vie ou dans sa ville. Ce sont tous ces courses, tous ces livreurs de repas pour ces plateformes qui fonctionnent avec une application. Il y a un film qui a été diffusé. Le film a été réalisé par Pauline Beniz et par toi, Jean-Bernard Robillard.
Je suis co-auteur.
Voilà, tu es co-auteur. Et elle, Pauline, elle est réalisatrice.
Et le héros.
Il est le héros, mais il est auteur aussi. Il est donc le personnage principal. Et toi, Martin, on te voit à ma entreprise aussi dans, sympa, dans le film. Tu es syndicaliste.
Syndicaliste, en effet,
Et JB, tu étais coursier.
J'étais coursier, voilà.
Et le film se nomme Shift, parcours d'un ex-coursier. Ça a été un super film, parce que je connais plein de gens dedans, donc ça m'a fait plaisir de les voir. Mais aussi, c'était vraiment bien foutu, parce qu'on voit vraiment ton parcours du début, quand tu t'es lancé dans la livraison de repas à vélo, et jusqu'à la fin.
Oui, c'est très vivant, hein. C'est pas un documentaire avec une suite d'interviews, c'est vraiment lavé de Jean-Bernard, c'est du vécu et c'est concentré en une heure, c'est péchant.
Combien de temps t'as été livreur, toi?
Moi, j'étais livreur, je fais quasiment 2 ans, en fait, un peu plus de 2 ans, et pour Deliveroo, j'étais livreur 1 an et demi. Allez, je vais répéter les chiffres parce que je me répète un peu et que tout tourne autour de ça. J'ai fait 5347 commandes et pas loin de 20 000 km en 1 an et demi, donc j'étais le meilleur livreur de chez Deliveroo. J'ai été mis en avant, hein, vraiment, chez Deliveroo, on peut le dire.
Et alors chez Deliveroo, c'était super, tout le monde s'entendait bien, vous tutoyiez le boss, on buvait des coups tous ensemble, vous étiez employé, salarié?
On était salarié par la Smart, c'est-à-dire qu'on avait un statut de salarié, on était travailleur autonome salarié en fait. Donc en gros, on était quand même salarié, on profitait aussi de la protection étendue du salariat, des assurances, etc., ce qui était très important.
Toi, t'as eu l'idée de faire ce boulot, pourquoi?
J'ai pas eu de joie. Moi déjà à la base je suis artiste, donc mal barré. Et ensuite j'ai travaillé dans un marché, puis je me suis pété le dos, puis je devais toucher le chômage, puis ça s'est pas fait, donc j'avais plus d'argent, plus rien, et il fallait que je trouve du taf, et j'étais pris nulle part parce que pas étudiant, parce que j'ai commencé à essayer de travailler dans les bars, etc. Et là on arrivait, t'as pas d'expérience, t'es pas étudiant, donc je me suis fait bâcher un peu partout. Et puis au bout d'un moment, je suis arrivé chez Take It Easy à la base, feu Take It Easy. Ils m'ont pris un peu du jour au lendemain, tu vois. Et c'était ça la force, c'est qu'ils arrivent, ils te disent « Ah ben vas-y, on te prend du jour au lendemain et tout ».
C'est un super boulot, tu vas voir,
ouais, tu vas voir,
tu t'organises
cool
comme tu veux.
C'est la mise en abîme de la coolitude.
C'est les mecs de Cowboy, ça, Take It Easy?
Oui, mais c'est formidable parce que les gars, ils trucident une boîte avec des milliers d'euros de dettes, pour la Smart et pour d'autres, hein, et pour les coursiers. Moi, j'ai des potes qui avaient 5000 euros chez eux, et hop, ils remontent une boîte juste derrière, et ils n'ont rien à payer.
Ils n'ont jamais remboursé,
payé. La boîte est en faillite.
Oui, mais il n'y a pas un curateur à un moment qui va faire quelque chose? Ça prend des années, donc c'est peut-être en voie de résolution, finalement.
Écoute, ils ont remonté leur boîte sur exactement les mêmes modèles, avec des fonds d'investissement derrière. Le fonds d'investissement principal de Cowboy, c'est quand même les mecs de Uber, donc...
Moi, je suis très sceptique par rapport aux Cowboys. J'aimerais même d'ailleurs les avoir dans les studios pour parler de ça. Et pas que parler de leur super modèle de vélo high-tech qui déchire tout, mais qui
faut
en fait cache.
Ils sont super cool.
Mais si je les invite, je peux t'inviter aussi.
Si
du
nous
coup.
Écoute.
Je t'invite aussi. Du
ah
coup.
Ouais, pas de soucis.
Ouais, la confrontation.
Ah ouais, avec grand plaisir.
Mais toi, c'est pas avec Take It Easy, c'est avec Deliveroo qui a eu un petit souci.
Moi j'ai eu le nez creux, en fait. J'ai dû sentir qu'ils allaient faire faillite Take It Easy. Et. Et du coup, c'est avec Deliveroo, voilà, exactement. J'ai brillé chez Deliveroo, puis j'ai refusé de passer sous le modèle indépendant. Avec mon ami Martin, qui va s'exprimer à un moment, pour une fois, il a pas beaucoup parlé. Non, je déconne. Il
non, parce que tu dis dans le film que tu dis dans le film que Martin, c'est le genre qui donne la parole plutôt que de la monopoliser.
Voilà.
Mais quand même.
Mais non, mais il a bien fait ça. Et du coup, Martin, toi, tu as rejoint à l'époque de toute la contestation avec Deliveroo ou contre le collectif des coursiers.
C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, je suis syndicaliste. Mais évidemment, le syndicalisme, ça se décrète pas depuis un bureau. Donc, c'est pas qu'on a débarqué un jour en disant aux coursiers, allez, on va faire du syndicalisme. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc, c'est parti évidemment d'eux. Il y a des coursiers, un noyau de coursiers qui a formé un collectif. Et ils nous ont contactés parce qu'évidemment, il y a un moment, ils ont quand même besoin du soutien d'une organisation, des gens qui connaissent un peu la négociation, qui ont des contacts, la presse, les politiques. Et donc on a commencé à travailler ensemble. Bon, il y a eu des petites affaires avant, hein. Vous savez, Deliveroo, ils ont commencé par délocaliser leur call center à Madagascar en juillet 2017. Voilà. Donc là, il y avait vraiment des employés qui tenaient le call center. Et en fait, pour les coursiers, c'était très important parce que c'était leur seul contact humain. Dès qu'ils avaient un problème lors d'une livraison, ils appelaient, ils avaient quelqu'un qu'ils connaissaient parce qu'il y avait une dizaine de gens au call center et qui réglaient avec eux leurs problèmes. Quand on leur a dit, ah oui, mais ça, c'est délocalisé à Madagascar, ils vont dire quoi? Si j'ai un pneu crevé, la langue de l'avenue Louise, je vais appeler Madagascar qui va me dire quoi? C'est quoi? Ici, il fait très beau, tout va bien.
On en était là.
Et donc, ça a été une des premières luttes. Et quelques mois après, Deliveroo donc, a annoncé qu'il ne voulait plus travailler avec la Smart et il voulait que tous les coursiers passent en statut indépendant. Alors là, ça a été évidemment l'énorme changement. Ben, le changement, il y a la question de l'indépendant, mais il y a surtout, c'est ça le nœud qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, les coursiers étaient payés à l'heure, puisque comme ils étaient dans un contrat de travail, ils étaient payés à l'heure de travail, et là, Deliveroo leur dit, ah non, maintenant, vous êtes payés à la course. Et c'est pour pouvoir faire ça qu'ils voulaient les passer indépendants. Mais alors, être payé à la course, ça veut dire que quelle que soit la durée de la course, s'il y a du temps d'attente au restaurant, parce que le restaurant met du temps à préparer les plats, ou entre les courses, parce qu'une fois qu'on est connecté, on n'est pas sûr d'avoir directement une course à livrer, tout ça, c'est du temps gratuit, il est plus payé. Alors qu'avant, quand c'était payé à l'heure, c'était payé.
Ça fait combien de temps que c'est comme ça?
Ça, c'est depuis février 2018.
Ça a été vraiment une mobilisation. Vous avez pris le siège le siège social de Deliveroo. Vous l'avez occupé pendant un week-end.
Ça a duré deux jours, c'est ça.
Avant ça, il y a eu des manifestations et des rassemblements. Il y a eu des grèves. Alors c'est quoi la grève pour un coursier? C'est tu te connectes et puis tu réponds pas, ou alors tu prends des commandes mais tu ne vas pas les livrer. Enfin bon, il y avait des mouvements comme ça. Il y avait des négociations, mais on a vite senti qu'à part être très cool, nous dire on vous entend, il n'y a rien qui venait. Il y avait toujours un ultimatum qui courait parce qu'ils continuaient à dire après le 1er février, on ne travaille plus qu'avec des indépendants. Et à un moment, les coursiers se sont dit, OK, la seule chose qui reste à faire, c'est occuper les locaux.
Écoute, au bout de trois mois de négociation, on a quand même obtenu, oh là là, grande victoire. Et encore, ils n'ont jamais été livrés. Pour tous les coursiers, vous aurez un casque et une lumière. Voilà, tu vois.
Parce qu'en plus, ils ne fournissent rien. C'est le vélo du coursier.
Le coursier est un prestataire. Enfin non, c'est un partenaire. C'est un partenaire. C'est pas un esclave, c'est un partenaire.
À la course, ils offrent combien comme ça?
Alors, maintenant... Aujourd'hui, quand on travaille pour Deliveroo ou pour Uber Eats, c'est la même chose. Il y a deux situations. Soit tu prends le statut indépendant, soit parce que ça s'est développé entre deux. Parce que Deliveroo a aussi vite compris que le statut d'indépendant, c'est un peu compliqué. Parce qu'être indépendant en Belgique, c'est quand même quand on a une affaire qui marche, c'est quand même un certain chiffre d'affaires. Parce qu'il y a quand même les lois sociales et tout. Enfin, bon,
et donc il y a la loi de Croo, là.
Et alors, c'est créé comme par magie. Et alors on peut se demander, c'est quoi cette magie que tout d'un coup, ça apparaît juste au moment où Deliveroo en a besoin. La loi de Croo qui crée. Le mécanisme de l'économie collaborative. Alors c'est un mécanisme, c'est pas du tout un statut. Quand on fait ça, c'est créé pour des activités soi-disant occasionnelles qu'on fait à côté d'eux, mais en fait il faut pas avoir un vrai travail et donc on n'est ni salarié ni indépendant. On peut gagner d'une plateforme jusqu'à 6 000, un montant maximum qui change chaque année. Cette année, c'est 6 390. Il y a un impôt forfaitaire de 10% et il n'y a pas de cotisation sociale. Mais en fait, il n'y a rien. On n'est pas protégé. Il n'y a pas de cotisation sociale. Donc, je connais des coursiers qui sont là-dedans depuis un certain temps. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ni sur la sécurité sociale des salariés, ni celle des indépendants. Et en fait, ils ne sont même plus couverts en soins de santé, quoi. Donc s'ils ont un accident, non seulement ils ne sont pas couverts par une assurance accident du travail, mais ils vont à l'hôpital ou chez le médecin, c'est plein pot. Et ils ont juste les soins minimum comme un SDF.
C'est inouï donc, que ce soit légal, ça.
Enfin, ouais, c'est quand même dangereux leur boulot, hein, se trimballer à vélo.
Cette loi de Crowe, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux parce qu'il y a plein de personnes qui font ça, qui ne se rendent pas compte que, voilà, qu'il y a tous ces à côté. Et quand ils ont un problème, c'est la merde. Mais non seulement ça, mais si par malheur... Par malheur, parce qu'en fait, c'est au coursier à surveiller. Et tu dépasses le montant maximum de l'année, eh ben, tout ce que tu as gagné, en fait, est requalifié comme revenu d'indépendant. Et donc, on te dit par après, « Oh, mais mon grand, tu n'as pas gagné tes 6390, tu as gagné 6393 euros. » Et alors, deux ans après, au moment où souvent il est plus coursier, parce qu'en moyenne, on est coursier 4 mois, tu reçois une belle lettre de l'administration fiscale qui te dit « Tu as dépassé le montant. » T'étais indépendant et t'as même pas payé tes lois sociales, donc tu vas tout payer rétroactivement. 50%. Les lois sociales, 730 euros par trimestre, c'est d'office pour deux ans, tu vas payer 6000 euros pour commencer, plus les intérêts de retard. Et j'ai des gens comme ça qui sont vraiment, en plus, c'est évidemment souvent les plus précarisés, et là, ils seront dans la merde la plus totale.
Ouais. Et vous allez encore faire sur le terrain de la sensibilisation hein, par rapport à ça. Enfin, dans le film de Pauline Beniz, on le voit. Hein,
on va régulièrement rencontrer les coursiers, et bon, c'est un petit peu, comment dire, vider l'océan à la petite cuillère, parce que les coursiers, non seulement ils sont des milliers, mais en plus, le turnover, la rotation est énorme. En moyenne, on est coursier que pendant 4 mois. Ce qui veut dire que 4 mois après, c'est tout des nouveaux coursiers. À un moment T, il y en a 3 000, 3 500 pour Deliveroo, même chose pour Uber Eats. Et tous les 4 mois, ça change complètement. Et des gens aussi qui ne connaissent pas bien le système, tout le système et l'administration belge. Enfin, déjà, pour moi, ce n'est pas évident. Mais alors,
pour des petits jeunes.
Quelqu'un qui est précarisé, qui est parfois une origine migrant ou pas, ou étrangère, enfin, bon, c'est très compliqué.
Katia, oui.
C'est partout dans le monde comme ça, où il y a des pays où ils ont réussi à trouver un bon moyen de travailler de façon humaine pour...
En tout cas, il y a pas mal de pays où il y a eu des procès. Il y en a en cours en Belgique, mais c'est particulièrement lent en Belgique. Il y a des pays où les plateformes ont été forcées de salarier tous les coursiers.
Ah, voilà.
En Italie, par exemple, et en Espagne, vient de sortir la loi Riders. Donc après aussi une décision de justice, le gouvernement a pris la main et a dit « Bon, maintenant, tous les coursiers, tous les livreurs de plateformes sont salariés. »
Franchement, après avoir vu le film qui te met clairement en avant, JB, on réfléchit après quand même plus qu'une fois avant de commander à bouffer sur une de ces plateformes.
Voilà, c'est le but. À titre informatif, je suis, à ma connaissance, mon cas est particulier. Je suis le seul coursier en Europe et au monde à être attaqué en justice. D'habitude, ça va toujours dans l'autre sens. Là, cette fois-ci, ils nous ont allumé. On n'a pas fini. Moi, ils m'ont bien réveillé et ça va continuer. Ils ont pris un documentaire dans la gueule, mais je crois que ça, c'est pas fini.
Ah ouais, ça n'a pas. Parce qu'il y avait déjà l'action en justice, mais qui avait été finalement, il y a eu un jugement, non ?
Non, pas encore. C'est fin d'année. Martin, tu sais en dire un peu plus toi là-dessus.
Ouais, en fait, avec Deliveroo, il y a deux procès en cours. Un procès de Deliveroo contre Jean Bernard et un autre procès de l'auditorat du travail. Donc c'est un petit peu. L'inspection, mais comme le procureur, mais en matière travail, qui attaque Deliveroo parce qu'il dit qu'il aurait dû déclarer les coursiers comme salariés. Mais bon, chacun de ces procès prend deux ans, puis après il y a l'appel, c'est la même chose. Donc on est parti pour des années. Mais Jean Bernard a un syndicat derrière lui et on va se battre, il n'y a pas de problème.
Le film est visible sur Ovio. Hein,
tout à fait.
Le film Shift.
Il est
parcours d'un ex-coursier, c'est
j'ai
ça
partagé le lien sur Twitter.
Et voilà, il réfléchissait quand même vachement avant de commander à bouffer. Take it easy semblerait. Non, Take it easy.
Take away,
merci. Ouais. Là, c'est autre chose, quand même. Plus accepté. C'est un vrai salaire.
Côté, c'est des Deliveroo et Uber, quoi. Franchement, c'est pas possible.
Take away commence à faire des CDI en France. Donc, on va voir. Il y a eu un super article qui est sorti dans Cori qui disait on s'est habitué à Uber pas cher et les fonds d'investissement commencent à ne plus suivre. Donc les prix augmentent, donc on ne sait pas, peut-être il y aura des faillites prochainement. En tout cas, aux États-Unis, ça commence à chier sévère. Et c'est quand même bien dommage que ça arrive par les États-Unis, le pays de l'ultralibéralisme. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, bon week-end.
Salut.
Salut.
Portez-vous bien et roulez bien. Prudence.